marche sur la tête.
Cyril, bonne chance.
Merci Sophie, t'es un amour, je peux te faire un petit bisou?
Oui, bien sûr.
Merci, ça va porter chance.
1h30 de direct, 5 jours par semaine, sur Europe 1. Dès les premières minutes, le ton est donné.
Aujourd'hui, la gauche se met derrière le peuple arabo-musulman.
NPA, le parti de Philippe Poutou, vous avez vu comment il se comporte après chaque attentat terroriste?
L'émission du lendemain va crescendo.
Qui est pour vous le parti le plus dangereux aujourd'hui, le Front Populaire ou le Rassemblement National?
Et évidemment que le chaos est quelque chose de souhaité par la France Insoumise.
Gilles Verdez, vous êtes insupportable dans ce que vous dites. Vous représentez la mauvaise foi du Front Populaire.
Le 19 juin, l'ARCOM, le régulateur des médias, rappelle à Europe 1 ses obligations. Traiter avec mesure et honnêteté l'actualité électorale et assurer une pluralité de points de vue dans ses émissions de débat. Pour Cyril Hanouna, les choses sont claires.
Ici et dans toutes mes émissions, tout le monde, tous les gens et toutes les opinions sont les bienvenus.
Qu'en voilà. Est-il vraiment?
Voilà pour cet extrait d'enquête réalisé par Charles-Henri Grou et deux de ses collègues journalistes au quotidien français Le Monde. Bonjour. L'intégralité des deux semaines d'émission de Cyril Hanouna, soit 15 heures de direct en tout. Vous avez observé tous les intervenants, des invités, des chroniqueurs, les mêmes d'ailleurs que ceux que l'on voit habituellement dans le talk « Touche pas à mon poste » présenté par le même Cyril Hanouna sur C8. Vous avez comptabilisé leur temps de parole, examiné leur prise de position. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer ou qu'avez-vous découvert que vous ne saviez peut-être pas encore? Dites-nous tout.
On a d'abord eu une confirmation et on a ensuite eu une surprise. Mm-hmm. On a eu d'abord confirmation de ce qu'on pressentait, de ce que l'ARCOM avait alerté, c'est-à-dire que cette émission qui se présente comme une émission de débat, de décryptage, de discussion entre chroniqueurs, est en fait très très fortement orientée politiquement. Est en fait une sorte de monolithe politique complètement dirigée contre un mouvement, en l'occurrence c'était complètement dirigé contre la gauche, mmh. et penchée très très fortement vers l'extrême droite. Et puis une découverte, c'était qu'en chemin, on a découvert qu'en fait une partie des outrances politiques de cette émission était discrètement supprimée, probablement caviardée, par Europe 1 pour ne pas faire porter de risque juridique sur Cyril Hanouna.
Voilà, vous avez cité l'ARCOM qui est en France, ce qu'est le CSA en Belgique, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est l'instance régulatrice des médias. Vous l'avez dit, vous avez analysé plusieurs dizaines de minutes de direct discrètement supprimées dans les replays de l'émission. Comment vous vous en êtes rendu compte de cette suppression? Parce que ça, c'est intéressant.
Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré l'émission pendant qu'elle était diffusée, donc son direct, réel, vraiment ce qui est passé dans les oreilles des auditeurs, disons. Et on a comparé ça à ce que Europe 1 a présenté comme replay intégral. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site d'Europe 1, ils vous disent replay intégral de l'émission du 17 juin, du 18 juin, du 19 juin. Puis en travaillant en fait sur le temps de parole, puisque c'est notre hypothèse de départ, c'est de dire, bon, bah, faisons le temps de parole vraiment à la seconde près des invités politiques dans cette émission, des chroniqueurs, de Cyril Hanouna lui-même, on s'est rendu compte que les temps de parole ne correspondaient pas. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des émissions dont la durée totale n'était pas la même sur le site d'Europe 1 par rapport à ce que nous, on avait enregistré en direct. Donc, on s'est dit, c'est bizarre, il manque 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 3 minutes par-là. Et donc, on a regardé ce qu'il y avait dans ces minutes. On s'est dit, c'est bizarre. Pourquoi ces minutes ont disparu et qu'est-ce qu'on y raconte?
Et vous les avez soumises à des conseils juridiques, Charles-Henri Grou, qui ont pu analyser cela avec vous.
Exactement, parce qu'en fait, nous, on n'est pas juristes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait ces bouts. On s'est dit, bon, il y a des passages qui nous paraissent quand même particulièrement outranciers ou violents. On va demander à des juristes ce qu'ils en pensent et ce qu'ils nous ont confirmé, sans s'engager définitivement, évidemment, sur une condamnation ou quoi que ce soit absolument certaine des gens qui prononcent ces paroles. En tout cas, dire, il y a un fort risque, il y a un risque pour Cyril Hanouna, pour certains chroniqueurs et pour Europe 1, d'être poursuivis pour diffamation ou pour atteinte à la présomption d'innocence. Quand Cyril Hanouna accuse, par exemple, une personne personnellement, nommément, d'être responsable d'un acte antisémite ou d'être responsable d'un fait divers terrible qui s'est passé en France il y a 10 jours, le viol d'une petite fillette de confession juive.
On est donc face à une émission, quoi qu'on pourrait qualifier de propagande politique, en pleine période électorale, et quoi, l'ARCOM, l'instance régulatrice des médias en France, ne peut rien faire, Charles-Henri Grou? On peut se prendre des cartons jaunes ou rouges, un peu comme au foot, et continuer à faire à sa guise, comme l'a fait ici Cyril Hanouna sur Europe 1?
Alors non, heureusement, l'ARCOM, qui s'appelait d'ailleurs le CSA il y a encore très peu de temps, ouais, en France, tente de faire des choses. Ils envoient d'abord des mises en garde, c'est ce qu'ils ont fait pour Europe 1, dans l'émission Marche sur la tête. Après la mise en garde, ils peuvent envoyer une mise en demeure. Et après cette mise en demeure, il peut y avoir poursuite et amende. Et en fait, il y a déjà eu amende. C8, qui fait partie aussi du groupe de Vincent Bolloré,
a
reçu des amendes parfois très lourdes. Tout à fait, chef de télévision qui diffuse « Touche pas à mon poste » en France, a reçu des amendes, parfois de 50 000 euros, parfois 250 000 euros, des amendes qui sont montées à 1 million d'euros. Et CNews, qui est une chaîne d'information qui tend vers la chaîne d'opinion, qui appartient aussi au groupe Bolloré, a reçu de nombreuses amendes. Mais là, on touche un peu la limite du système, c'est-à-dire que l'ARCOM, ça prend du temps, ils prennent un risque en s'engageant en justice, ils ne sont pas sûrs non plus que la chaîne soit finalement condamnée. Puis en face, vous avez un groupe très puissant qui est tenu par un milliardaire qui a quand même les moyens de payer ses amendes.
Ouais, effectivement, qui paye et donc et à chaque fois permet à ses présentateurs, ses animateurs, ses journalistes hein, même de continuer à faire leur travail quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Dans quelques semaines, l'ARCOM va devoir décider du renouvellement du canal des chaînes de télé en France et donc notamment du renouvellement de CNews. Hein. C'est là qu'officie notamment Pascal Pro, c'est là qu'Éric Zemmour était chroniqueur avant de se lancer en politique. Est-ce que l'ARCOM pourrait décider de supprimer le canal de CNews ?
Sur le papier, oui. Et c'est pour ça qu'on a un moment charnière, assez décisif pour l'ARCOM, dans la dernière année du mandat de son chef, d'ailleurs. Donc c'est un moment aussi très important pour lui dans le bilan qu'il va laisser de son passage de son mandat à l'ARCOM avant qu'il soit remplacé. On a un moment très important qui est très tendu, même politiquement, pour l'ARCOM, puisque CNews, qui est normalement une chaîne d'information, qui tend vers la chaîne d'opinion par ses prises de position répétées, même quasi... totale et constante, peut se voir refuser le renouvellement de son canal. Mais comment vous faites ? Parce qu'entre-temps, depuis le mois de juin, CNews est devenue la première chaîne d'info de France, a dépassé BFM TV, la chaîne historiquement la première chaîne d'info de France, d'un tout petit 0,1 point d'audience, 3,6% d'audience au lieu de 3,5% pour BFM TV. Sauf que ça fait de CNews... sur le papier, la première chaîne d'info de France. Comment vous faites quand vous êtes l'ARCOM, que vous voyez une chaîne multi-poursuivie, parfois condamnée, mais qui est, sur le papier, la première chaîne d'info de France? Donc retirer le canal à CNews, c'est très compliqué.
Évidemment, c'est compliqué. Et comment vous expliquez, vous, le succès de telle chaîne de télévision, de tel programme? C'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, hein, finalement. Est-ce que c'est une société polarisée qui est intéressée par ce genre de programme, ou est-ce que ce sont ce genre de programmes qui créent, finalement, la polarisation croissante de la société française? Votre avis là-dessus, Charles-Henri Gros?
Ah, c'est sans doute un peu des deux. La recherche est assez partagée sur le sujet elle-même. C'est-à-dire que CNews accompagne à la fois une forme de droitisation de la société sur certains enjeux, des crispations sur des sujets identitaires ou sur des faits divers qui se répètent ou qui sont parfois montés en épingle. Donc clairement, CNews accompagne ce mouvement-là et en même temps qu'il l'accompagne, il l'exagère, il l'amplifie. On l'a vu sur des faits divers montés de toutes pièces ou exagérés. De façon très souvent orientée aussi, puisque les faits divers qui sont utilisés par CNews en tête d'antenne sont très souvent des faits divers qui font intervenir des personnes d'origine immigrée. Donc on voit bien une orientation de la ligne éditoriale de CNews vers un certain champ. Donc le fait divers, ça marche, on le sait, dans la presse depuis 150 ans, CNews en fait son beurre, ça coûte pas très cher à faire, il n'y a pas besoin de faire du terrain, on fait un plateau, on prend un sujet lié à la sécurité, on le fait monter en... On le fait mousser, comme on dit dans le milieu. Et puis, il faut quand même être honnête, c'est des gens qui sont... les gens qui sont à l'antenne sont des pros de la télé.
Ils connaissent leur travail et ils répètent, on a le sentiment, Charles-Henri Roux, qu'ils répètent un schéma qui fonctionne, que ce soit dans le divertissement ou dans l'information, tout ça s'entremêle un peu.
Oui, Cyril Hanouna est très bon à la télé, il est très bon, il anime bien, il fait des blagues, ses chroniqueurs sont très à l'aise, il enchaîne les sujets avec grand talent, il envoie les séquences au bon moment, le public applaudit quand il faut. Enfin, c'est une émission, c'est une mécanique extrêmement bien rodée, et c'est pour ça que c'était important pour nous de se dire, bon, au-delà de ce qu'on peut ressentir, de ce côté genre, ah bah, quand on se lance dans une émission de Cyril Hanouna, on a presque envie d'y rester en fait, mais qu'est-ce qu'on y raconte au fond? Sur le fond, qu'est-ce qu'on y dit? Et en fait, ce qu'on a vu, nous, c'est que quand on reste sur un truc très objectif, bon, bah, y a un déséquilibre complet de la parole politique, de ce qui est dit. Cyril Hanouna occupe à lui seul 40% du temps d'antenne, c'est-à-dire que l'émission, c'est 40% du temps Cyril Hanouna tout seul qui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et donc, par exemple, il y dit 30 minutes sur l'émission On marche sur la tête, 30 minutes de critique de la gauche, 2 minutes 30 de critique de la majorité présidentielle, donc ceux qui suivent Emmanuel Macron, et 0 minute de critique de la droite et de l'extrême droite. Donc quand on regarde les choses vraiment très objectivement...
Oui. Merci beaucoup Charles-Henri, je suis désolée, je dois vous interrompre.